Vous regardez BFM Grand Soir et on va revenir sur cette troisième journée de procès dans l'affaire Jubilard. Aujourd'hui, le directeur de l'enquête était à la barre et il a dû faire face aux attaques des avocats de la défense. On va en parler dans un instant avec Jacques-Charles Fombonne, bienvenue, général de gendarmerie. Alexandra Gonzalez du service police-justice, bonsoir Alexandra. Bonsoir. Et Florence Rouas, bonsoir, avocate pénaliste. Mais juste avant, le récit donc de cette troisième journée de procès, il est signé Julien Migaud-Muller, pardon, avec nos équipes sur place. Regardez.
Pour cette troisième journée d'audience, Cédric Jubilard porte un jean et un sweat gris. Debout, il répond à toutes les questions d'une voix claire et assurée et revient sur les propos tenus par l'administratrice de ses enfants. Selon elle, son fils Louis, aujourd'hui âgé de 11 ans, serait convaincu de la culpabilité de son père. Mais face à la cour, Cédric Jubilard clame à nouveau son innocence.
Je n'ai pas tué Delphine. Je me sens concerné et discriminé. Je ne comprends pas sa colère.
Face à la cour, Cédric Jubilard balaye les critiques, et notamment celles qui visent à le faire passer pour un père froid, qui prend peu de nouvelles de ses enfants depuis son incarcération.
Votre fils Louis a demandé à vous voir. Est-ce que vous avez envie que vos enfants viennent vous voir en prison ?
En prison, non. Mais en visio, oui.
On vous l'a proposé ?
Non, personne.
Vous avez baissé les bras ?
Mon dernier courrier date du 28 juillet et mon courrier n'a toujours pas été transmis.
J'ai soutenu d'organiser des visites de Louis au parloir de la prison de là où est Cédric Jubilard et qu'il n'a rien fait pour que ça se passe. Donc il fallait le rappeler, ça.
Comme hier, la défense se montre combative, offensive, déterminée, à l'affût du moindre élément, du détail qui pourrait, à lui seul, faire basculer tout le procès.
D'abord, il y a les deux gendarmes, celles qui interviennent en premier, qui sont appelées par Jubilard et qui arrivent à son domicile, qui le découvrent avec la fameuse tenue de panda. Elles ont été hier mises face à leurs contradictions. Lorsqu'elles sont en reconstitution, elles donnent une version. Lorsqu'elles sont à la barre, elles donnent un autre témoignage. Et d'ailleurs, il y a une question à ce moment-là de la défense qui dit « Mais vous êtes briefé là pour dire ça ?» Parce qu'un jour, vous dites « noir » et ici, à la barre, vous dites « blond ».
Et puis il y a ce témoignage troublant, celui d'un homme qui dit avoir vu quelques heures après la disparition de Delphine Jubilard une voiture suspecte dans un lieu peu fréquenté, à quelques kilomètres seulement du domicile des Jubilard.
Moi j'allais au travail tous les matins et alors je prends une route de campagne si vous voulez, on ne voit jamais de voiture. Et ben voilà, ce jour-là, on a vu une voiture allumée sur le bas-côté de la route, avec le plafonnier allumé. On s'est posé des questions et plus tard, on avait appelé la gendarmerie.
Ce témoignage fait bondir la défense de Cédric Jubilard parce qu'au moment même où cette voiture suspecte est repérée, il est chez lui avec des enquêteurs. Pour les parties civiles, ce témoignage n'a aucune valeur. Selon eux, les avocats de Cédric Jubilard chercheraient à brouiller les cartes en multipliant les fausses pistes.
Ça, c'est pas une vraie piste crédible.
Ben non, apprendre les choses de manière isolée, on finit pratiquement par s'y perdre. On crée un brouillard de guerre qui n'est pas compatible avec l'idée qu'il faut se faire de l'ampleur et de la qualité des moyens qui ont été déployés pour retrouver Delphine Jubilard.
Et c'est ce qu'a martelé cet après-midi le chef des enquêteurs. Tous les éléments recueillis ramènent à Cédric Jubilard, malgré l'absence de corps et d'aveu.
Voilà, ce qu'on retient, Alexandra Gonzalez, de cette troisième journée de procès, c'est à quel point la défense a torpillé tous les éléments énoncés par le directeur de l'enquête. Éléments soi-disant à charge, donc contre Cédric Jubilard.
Éléments à charge. Mais c'est vrai qu'il faut s'imaginer que dans cette salle d'audience, pendant 2 heures, vous avez eu un major de gendarmerie à la barre, 31 ans de carrière, qui a déroulé toute l'enquête en expliquant élément après élément pourquoi le seul suspect, le seul accusé possible dans ce dossier était Cédric Jubilard. Et là, après 2 heures de cette intervention, arrivent les avocats de la défense qui vont torpiller un à un tous les éléments que lui avait pu exposer, avec notamment Maître Emmanuel Lefranc, que l'on voyait sur ces images tout à l'heure, qui est montée crescendo, nous disaient nos envoyés spéciaux sur place. C'est-à-dire qu'elle a, elle a commencé d'abord par dire, par dépeindre un Cédric Jubilard qui avait accepté le divorce. Elle dit, bah, il avait demandé un crédit à la consommation pour la vie d'après. Mm-hmm. Il s'est inscrit sur Mythique, il se présentait déjà comme un papa divorcé, donc il avait accepté ce divorce.
Donc c'était pas le mari jaloux qui aurait tué sa femme parce qu'elle menaçait de le quitter, c'est ce qu'ils ont essayé de dire.
C'est ce qu'essaye d'instiller la défense. Elle revient par exemple sur ces lunettes cassées de Delphine Jubilard qui sont retrouvées par les enquêteurs 8 jours après sa disparition dans la maison. Elle dit, bah oui, mais elles étaient cassées, et alors peut-être qu'elle portait ses lentilles, ça ne veut pas dire qu'il s'est passé forcément quelque chose de criminel. Elle parle des cris qui ont été entendus par des voisines habitant en face la nuit de la disparition. Et là, Emmanuel Franck dit, j'ai refait tout le redatage et ça ne colle pas. Elle revient sur la piste de l'amant en disant, cette piste a été complètement écartée par les enquêteurs qui ont notamment utilisé comme argument, la domotique n'a pas été utilisée ce soir-là, ils sont restés dans la maison. Et l'avocate, donc la domotique, c'est tout ce qui est l'usage des appareils électroniques et la porte d'entrée notamment. Et l'avocate leur dit, oui, mais ils pouvaient sortir par la porte vitrée. Donc, on voit qu'elle a eu aujourd'hui, elle a tenté en tout cas à chaque fois d'instiller le doute, de torpiller tous ses arguments, l'idée étant derrière qu'il y ait un doute qui profite à l'accusé.
Florence Rouas, c'est vrai qu'on a eu l'impression que les avocats de la défense avaient réponse à tout. Oui. Et c'est là qu'on se dit à quel point ça doit être difficile pour les jurés de se positionner aussi.
Oui, mais bien sûr, mais c'est très important. C'est un travail, j'allais dire, très pointilleux qu'ils sont tenus de faire, parce que c'est vrai que l'enjeu est important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Cédric Jubilard, eh bien, c'est l'accusé et le suspect principal, mais aussi le coupable idéal, vous voyez, et le coupable par défaut. Donc, je comprends très bien mes confrères de la défense qui ont à cœur, en fait, de démontrer point par point que à chaque argument invoqué, notamment par le directeur d'enquête entendu aujourd'hui, eh bien, il y a des contre-arguments qui peuvent être invoqués et qui doivent justement susciter le doute, les interrogations dans l'esprit des jurés. Ils font leur travail, c'est très important ça.
Peut-être qu'on peut les écouter d'ailleurs, les avocats de Cédric Jubilard qui pointent du doigt tout ce qui n'a pas été fait dans cette enquête. Y a-t-il eu des failles? Oui, selon eux, on les écoute.
Si vous voulez, a été pointé du doigt tout ce qui n'a pas été fait quand même. C'est énorme, des figesses qui n'ont pas été interrogées, des relations particulières entre l'enquêteur et un suspect quand même évident, des investigations qui n'ont pas été menées, des prélèvements qui n'ont pas été envoyés au laboratoire s'agissant de personnes qu'on a raison de suspecter. Et on a repris avec Maître Franck le procès-verbal criminalistique du 11 juin 2021. Retenez cette date, on est à 5 jours de l'interpellation de ces Cédric Jubilard. Et il est noté quoi? Vous l'avez entendu, cette liste à la Prévert que l'on a faite. Pas de traces de lutte, pas de traces de crime, pas de traces de sang, ni dans la maison, ni dans le jardin, ni dans la voiture. On fait quoi avec ça?
Est-ce qu'on peut dire que, de fait, les enquêteurs, malgré le travail colossal qu'ils ont mené, sont passés à côté de quelque chose?
Il y a 5 ans d'enquête, il y a 15 000 pièces de procédure. Au-delà des enquêteurs, il y a les juges d'instruction, hein, qui c'est eux qui mènent l'enquête dans ce domaine. Mais c'est ce que disait Maître Rouas à l'instant. L'avocat est un auxiliaire de justice, c'est-à-dire qu'il participe, on va dire, à la manifestation de la vérité, mais avec des armes qui ne sont pas celles des enquêteurs. Je dirais que les deux armes classiques que l'on rencontre lorsque l'on est directeur d'enquête et qu'on se retrouve dans cette situation, c'est vous avez ciblé mon client et vous avez négligé les pistes annexes, ou vous avez effectivement bouclé toutes les pistes possibles, et c'est ce qui est le cas. Hein. Cédric Jubilard avait même expliqué que sa femme avait pu partir faire le djihad. Les gendarmes ont même interrogé des enquêteurs spécialisés de la DGSI pour démontrer que ça n'était pas le cas. Et ou alors créer le doute. Mais vous voyez, là, je dirais que l'exemple le plus emblématique, alors évidemment on connaît pas la procédure, l'exemple le plus emblématique, c'est celui de ce témoin qui dit « j'ai vu une voiture à quelques mètres de chez Jubilard », sauf que ce monsieur part au travail, il est 5h30, et qu'à 5h30, Cédric Jubilard est avec les gendarmes qu'il a appelé à 4h09 en disant « ma femme a disparu ». Effectivement, les branches de lunettes ont été retrouvées sous un meuble plusieurs jours après l'intervention des deux gendarmes féminins qui sont les premiers à marcher et qui arrivent sur les lieux. Mais lorsqu'elles arrivent sur les lieux, on est dans le cadre d'une disparition de personne. Donc, on cherche si la personne n'est pas dans le jardin, si la voiture est là, si elle a emporté ses affaires.
On ne cherche pas encore les indices d'un meurtre.
On n'est pas sur une scène de crime. C'est après, effectivement, lorsque l'on se rend compte que ses lunettes ont été cassées par un choc et qu'elles ont pu simplement ne pas tomber, qu'elle est partie seule dans la nuit alors qu'elle a peur du noir, que la voiture aurait changé de sens, qu'elle n'a pas de papier, qu'elle a laissé ses enfants, et que la situation d'après les éléments d'enquête était beaucoup plus conflictuelle entre elle et son mari que ce que les premiers débats laissent savoir. Mais c'est un classique. C'est extrêmement difficile pour un directeur d'enquête, face à la cour, dos au public, d'être enfermé.
Vous l'avez déjà fait?
Oui, je l'ai fait parce que tous les commandants je l'ai fait lorsque j'étais commandant de section de recherche. C'est un exercice très difficile. Vous arrivez, parce que les gendarmes sont toujours à l'heure, 2 ou 3 heures avant le début de l'audience. On vous enferme dans une salle où vous êtes tout seul. Vous avez la grande tenue, la chemise blanche, la vareuse, le képi. Au bout d'un moment, vous enlevez la cravate, vous enlevez parce qu'il fait chaud et qu'on vient pas. Et à un moment donné, l'huissier audiencier ouvre la porte en vous disant « Mon colonel, maintenant c'est à vous ». Vous vous rhabillez presque dans la panique. Vous traversez la cour, vous savez, avec les chaussures réglementaires qui font clac, clac, clac. Il y a un silence de mort. Vous commencez à vous présenter à la barre, vous saluez la cour. Le président ou la présidente vous dit « Mon colonel, on vous entend ». Vous commencez à enlever le képi, déjà, vous n'avez pas d'endroit pour le poser. Donc, une espèce de
déjà, murmure. Ça vous déstabilise.
Mais oui, un murmure de rigolade derrière vous, vous finissez par trouver un endroit. Vous racontez votre histoire, 2 heures à raconter une histoire. Et c'est très difficile parce que les gendarmes ont souvent peur de ne pas en faire assez. Si vous êtes trop rapide et trop succinct dans votre exposé, immédiatement, dès que l'avocat va prendre la parole, il va vous poser la question de savoir pourquoi vous n'êtes pas allé dans les détails, évidemment parce que vous avez quelque chose à cacher. Si vous êtes trop précis et si vous rentrez dans les détails, au bout d'un quart d'heure, vous avez perdu tout le monde et l'effet de présentation de ce que vous avez fait est complètement contre-productif. Et puis, il y a toujours sur les épaules de celui qui porte le compte-rendu de l'enquête, la petite musique désagréable qui lui dit « Si je merde, je détruis les 4 ans, 5 ans d'enquête, les 15 000 pièces de procédure et le travail de mes 10, 15, 50 camarades. »
Donc il ne faut oublier aucun détail.
Il ne faut rien oublier et évidemment, c'est l'oralité des débats. C'est-à-dire que les magistrats professionnels connaissent évidemment le dossier, mais les jurés qui sont des citoyens comme vous et moi ne le connaissent pas. La seule connaissance qu'ils en ont, c'est éventuellement en écoutant les chaînes d'infos ou parce qu'on va leur dire. Et c'est uniquement l'oralité des débats. Il est très clair dans ce dossier qu'on n'a pas de preuves irréfutables, on n'a pas d'aveu circonstancié, on n'a pas de corps.
C'est quand même la particularité,
oui,
effectivement,
si
de ce dossier.
Voulez, le principe de la cour d'assises, c'est celui de l'intime conviction de ceux qui doivent juger. C'est-à-dire qu'au fond d'eux-mêmes, en fonction des éléments qui leur ont été rapportés, ils disent « je pense qu'il est innocent, je pense qu'il est coupable ». Ça n'est pas être grand clair que de dire que dans un dossier comme celui-ci, bien malin, qui peut dire quelle sera l'issue des débats de l'acquittement ou de la condamnation.
Mais d'où la lourde responsabilité que vous portez, vous, en tant que directeur d'enquête, quand
évidemment.
Vous témoignez, puisque cette intime conviction va se fonder
sur
récit.
Parce que le gendarme aura été brillant, ou au contraire, parce qu'il aura regardé ses chaussures et qu'il aura hésité. Et puis, c'est une lutte de dominant à dominé. Quand vous avez en face de vous, ou en partie civile, ou évidemment pour la défense, un avocat qui est extrêmement brillant à l'oral et qui va savoir mettre les jurés dans sa poche avec des plaisanteries, avec des éléments, avec des coups de théâtre qui vont sortir du chapeau, je dirais que la tâche de l'enquêteur policier ou gendarme est extrêmement difficile parce que c'est un militaire, c'est un fonctionnaire, il n'est pas du tout rompu à cet exercice.
Je vous lis ce qu'a dit aujourd'hui le directeur de l'enquête. Tous les éléments recueillis ramènent à Cédric Jubilard. Il y avait la motivation, un mobile et aussi l'opportunité, son comportement ambigu, ses mensonges, sa jalousie, ses menaces, les lunettes, les cris, la voiture qui change de place, le téléphone de Delphine. Objectivement, l'ensemble de ces éléments tendent à montrer la participation de Cédric Jubilard malgré l'absence de corps et d'aveu. Est-ce qu'avec ces éléments énoncés par le directeur de l'enquête, il peut encore y avoir un acquittement au bout de ces 4 semaines de procès pour Cédric Jubilard ?
Bien sûr, bien entendu. Et d'ailleurs, je crois que en écoutant un peu ce qui se dit depuis le début de l'audience lundi, les confrères de la défense, donc les avocats de Cédric Jubilard, ont une fenêtre de tir qui me semble assez claire, c'est-à-dire que peut-être que Monsieur Jubilard apparaît comme le coupable idéal, mais et peut-être que effectivement tout ce que dit le directeur de l'enquête, il apparaît comme ayant le mobile, le comportement, etc., qui laisse à penser que il peut être le seul coupable dans cette affaire, mais il n'en demeure pas moins que c'est pas parce que il y a tous ces éléments qu'il est le coupable. Et c'est ça la fenêtre de tir, c'est de dire mais c'est pas parce que ils allaient divorcer, c'est pas parce que ils ont trouvé les lunettes, c'est pas parce que ça, tout ça n'en fait pas forcément le coupable. Et c'est là le travail de la défense, c'est de dire mais finalement vous arrivez parce que vous parliez tout à l'heure de la manifestation de la vérité, mais il y a aussi une responsabilité de mon point de vue du directeur d'enquête. C'est pas juste la manifestation de la vérité, c'est aussi d'éviter l'erreur judiciaire. Parce que c'est bien de dire ce qu'il dit, de dire tout laisse à penser. Mais imaginons que ce tout laisse à penser n'est pas la réalité. Que ce n'est que, effectivement, des impressions, des apparences. Moi, c'est la question que je me poserais si j'étais le directeur d'enquête. Je me dirais, et c'est la question que les avocats de la défense doivent poser. Parce que, effectivement, à mon sens, pas de corps, certes, pas d'aveu, mais aussi dans tous les éléments qui sont énoncés, que l'on connaît au jour d'aujourd'hui, via les médias, via le service police-justice de BFM, c'est que quand même, il y a des doutes dans cette affaire. Et que cet homme, est-ce que... je me place pas, j'ai pas de conviction en ce qui me concerne, en tout cas pas pour l'instant, mais est-ce qu'au vu des éléments qui existent aujourd'hui, on peut considérer comme ça et l'envoyer en prison peut-être pendant plusieurs années? Déjà, il y a 4 ans et demi de détention provisoire. Ça pose question quand même. Hein.
Alexandra Gonzalez, demain, c'est un gendarme expert des analyses téléphoniques qui sera à la barre. Le téléphone est clé dans cette affaire.
Oui, parce que il a été passé au crible, évidemment, par les enquêteurs qui se sont rendus compte qu'il a été coupé pendant un certain moment de la nuit, alors que ce n'était pas dans les habitudes de Cédric Jubilard. Il a été interrogé là-dessus, il s'en est assez peu expliqué. Donc il y a autant de choses qui vont demain être amenées à la barre devant ces jurés qui sont, on le rappelle, 4 hommes et 2 femmes avec 3 magistrats, 9 au total, qui vont devoir pendant toutes ces semaines, le procès dure encore 3 semaines, qui vont devoir décider de l'innocence ou de la culpabilité de Cédric Jubilard, avec, on le rappelle, évidemment, derrière la possibilité d'un appel, c'est-à-dire d'un second procès. Mmh. Là, ce n'est que le premier procès.
Et les règles, c'est donc, il y a 3 magistrats, 6 jurés, il faut qu'il y ait une majorité de 7 personnes pour prouver, pour déterminer s'il est coupable ou non.
À la fin du procès, l'audience se termine, Cédric Jubilard sera le dernier à parler en tant qu'accusé. Les jurés partent avec les magistrats, ils s'enferment et ils vont délibérer immédiatement. Ils devront être au moins 7 sur les 9 à être d'accord entre eux s'il y a une culpabilité qui est décidée.
Merci beaucoup à tous les 3.